I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Une petite chose à faire. Il faudrait que tu dises la Quinterview à ta manière.
La Quinterview.
Ça, c'est pas mal.
La Quinterview.
Solennel.
La Quinterview.
Mutin.
La Quinterview.
Colère. Fais-moi la Quinterview colère.
Oh, la Quinterview, là.
Une Quinterview joyeuse.
3, 2, 1. La Quinterview.
I am the queen of drag.
Un tout petit peu trop t'as mangé le micro.
Ok,
j'aime bien manger le micro.
Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique et de processus créatif. Je suis toujours... Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter un artiste drag démoniaque. Ça fait 10 ans qu'elle fait du drag, et ça fait 10 ans qu'elle tire le diable par les cheveux. Attention, je vous préviens tout de suite, c'est un épisode avec plein de jeux de mots avec des cheveux. À travers son drag et ses performances, elle rend hommage à ses origines et ses multiples cultures, créole, indienne et yab. Et j'ai envie de vous dire, c'est mission réussie. On enregistre cet épisode dans son atelier, donc ça peut faire un peu des bruits d'atelier. Bienvenue pour ta Quinterview, Shenara Tanjabi.
Bonjour.
Shenara Tanjabi ou Shetan pour les intimes et les mâchoires fatiguées.
C'est ça.
Ouais, parce que sinon c'est compliqué.
Oui, bon, après c'est aussi pour la version PG-13 et tout, parce que bon, des fois, appeler le diable trois fois, on a un peu peur, quoi.
Ah, c'est vrai. Oui. C'est comme Beetlejuice.
C'est ça.
Ok, pas dire Beetlejuice trois fois.
Beetlejuice. Ah, Beetlejuice.
Beetlejuice.
Voilà.
Est-ce que t'es prêt pour ta Quinterview ?
Plus ou moins.
Ah, plus ou moins. Oui. Je préfère plus que moins quand même.
Plus.
Ah ok, très bien. Avant de commencer, c'est quoi tes pronoms ? Comment je m'adresse à Watt ?
Il, elle, yel, comme tu veux, tant que tu t'adresses avec moi avec respect, moi ça me convient.
Ok, eh ben formidable, c'est parti. Donc dans un premier temps, avant de parler avec Shenara Tanjabi, j'adore le dire d'un seul coup, je me suis vraiment beaucoup entraîné pour le dire, je te jure. Donc je voulais parler à toi, donc à Out of Drag, donc à Razel. Donc toi, avant que tu rencontres Shenara, bah déjà pour commencer, où est-ce que t'as grandi, d'où tu viens, c'est quoi tes origines ? C'est Razel, il vient d'où ?
Alors, Razel, il est né sur la magnifique île de la Réunion, donc un département français situé à 11 000, voire 12 000 kilomètres de l'Hexagone. Je dis l'Hexagone et pas la métropole, parce que ça voudrait dire qu'il y a un lien de supériorité. Et nous sommes un département français comme tous les autres, situé dans l'océan Indien, pour ceux qui sont un peu nuls en géographie, entre l'île Maurice et Madagascar. Je suis né dans le sud de l'île. J'ai fait mes 3 premières années dans la ville de Saint-Louis et j'ai plutôt grandi après de mes 3 ans à mes 18 ans dans le village de l'Entre-deux. Donc il faut savoir que La Réunion, c'est une île certes, mais c'est une île volcanique qui est relativement jeune, donc on a un relief assez particulier. Ça veut dire qu'en 2 heures de voiture, tu peux passer du volcan, genre la montagne, t'es presque au niveau des nuages, à la plage. Voilà, donc moi j'étais un peu paumé dans des montagnes, donc ça s'appelle l'entre-deux parce que c'est littéralement entre deux pans de montagne, donc entre deux rivières. C'est un peu, comment dire, la précarité, entre guillemets, en termes de, d'accès.
C'était un peu paumé dans la montagne, un peu difficile de venir jusqu'à... d'accès.
Et quand j'étais plus jeune, il y a un pont qui a été construit quand je devais avoir 6 ou 7 ans. Et là, ça a quand même donné plus d'accès à ce village. Mais il faut savoir que quand j'étais petit, par exemple, même des gens de La Réunion, des fois, ne connaissaient pas ce village, en fait.
Ok.
Voilà. Donc, à l'époque, ouais, 6000 habitants. Et donc, ma famille avait un commerce dans le village.
Ok.
Qui dit village... dit forcément, tout le monde se connaît, tout le monde a un rôle social à se présenter dans le village, etc. quoi.
Ok, donc c'est-à-dire qu'en gros, dans ce petit village, 6000 habitants, c'est quand même petit, mais c'est pas si petit,
non,
c'est quand même
va.
Pas si petit que ça. Comme tout le monde se connaît, on fait quand même attention à qui on est, à notre représentation dans la vie sociale et du village, c'est ça ?
Oui, totalement. Mon père, lui, il est ce qu'on appelle à La Réunion Zarab. Donc, pour pas faire de confusion, Zarab, c'est un peu un mot qui nous a été donné un peu par erreur. Parce que du coup, en fait, la majeure partie de la population à La Réunion décrite comme Zarab sont des Indiens avec une foi musulmane. Pas des gens du Maghreb, pas des gens de la péninsule arabique, mais bien de l'Inde. Et donc, en fait, ils se sont dit « Ah bah du coup, c'est des musulmans, bon bah c'est des Arabes avec un Z ». Bon ben ça on l'a gardé, après c'est comme d'autres communautés de gens, par exemple les Chinois, on les appelle les Sinois. Mais on ne sait pas s'ils viennent du Cambodge, du Canton, enfin voilà. Il y a aussi beaucoup une autre population indienne, donc Tamoul, qu'on appelle les Malbars.
Okay.
Ma mère, elle est Yab. Donc les Yab, c'est ce qu'on appelle les Blancs des Hauts, donc dans les montagnes, qui sont venus à La Réunion en étant donc paysans, pauvres, pour essayer de trouver des nouvelles terres, voilà, essayer de se refaire. Donc les Yab sont ressemblent relativement à des métropolitains. Enfin, il y a quand même, entre créoles, genre, on peut reconnaître un peu cette différence, mais ça reste, je pense, subtil pour des gens en hexagone, quoi.
Donc tes parents ont des origines, on va dire, différentes. Et alors toi, comment tu grandis, comment ça se passe un peu ta vie de jeune garçon ?
Alors, du coup, plus jeune, j'ai dans mes souvenirs que j'étais quand même quelqu'un d'assez extraverti, assez joyeux, vraiment petit âge, je pense, jusqu'à mes 8 ans. Sachant que dans le village, donc comme je te disais, le statut, enfin le fait d'être Zarab, en fait, on était presque les seuls Arabes, en fait. Sinon, le reste, c'était que des gens des Hauts, donc des Yab, quoi. Même si, du coup, on était... nous, les enfants, on était métis, quoi. Donc, bon, après, faire La Réunion, le terme créole, le métissage, on est tous métis parce que c'est un peu compliqué de remonter sur les origines de chacun et chacune. D'avoir, ces yeux rivés un peu sur la famille et tout, c'était un peu compliqué.
Ça mettait la pression.
Ça mettait la pression. Et puis, c'était surtout à la maison. Nous, on nous disait de toujours se tenir à carreau, d'être droit dans les baskets, etc., pour ne pas ternir l'image de la famille. Donc, faut savoir qu'à La Réunion, il y a beaucoup aussi cette pression familiale où, en fait, quand tu sors, tu représentes forcément la famille. Parce que, généralement, les gens te connaissent par rapport à fils d'eux, fille d'eux.
Mais t'étais un peu... C'est-à-dire que t'étais un peu coquin, t'étais un peu blagueur, tu faisais des petites bêtises.
Ah oui, moi, je faisais un peu des petites bêtises, mais pas non plus des choses répressibles, quoi. Mais c'était plus après mon insertion avec d'autres enfants, c'est d'essayer de me faire d'autres amis vu le statut des parents, qui était un peu compliqué parce que forcément on est le fils du commerçant, le fils de ceci, c'était pas pour se faire des amis, c'était compliqué forcément. S'il y avait des rancœurs d'une famille à une autre, ça se transposait dans les relations avec les enfants. Donc toi t'étais là en mode genre mais moi j'ai rien fait. Le mec, il veut pas jouer avec moi parce que ses parents lui ont dit « je joue pas avec lui parce que c'est le fils d'un tel », tu vois.
Ok.
Voilà. Du coup, relativement seul dans le village, à partir de 8-9 ans, je pense qu'en grandissant, j'ai compris un peu plus des choses sur ma différence. Déjà, sur ma sexualité, j'ai appris assez tôt que j'étais homosexuel. Comment assumer le fait d'être homosexuel en étant dans un foyer créole déjà. Alors à La Réunion, c'était quelque chose qui était très caché, très peu parlé. Et d'autant plus d'être un Arabe homosexuel. Ça, c'était aussi...
Oui, parce que j'imagine Arabe, homosexuel, et puis t'es pas proche d'une grande ville, t'es dans un village.
Je suis dans un village, c'est ça. En fait, bah, j'étais un peu seul face à tout ça, quoi. Mais dans un autre sens, en fait, le fait d'apprendre mon homosexualité, ça m'a pas du tout posé de problème. J'ai tout de suite accepté ça. Je me suis dit, oh, bon, bah, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Le plus dur, ça a été vraiment, en fait, de cacher ça pour ma sécurité, ma propre sécurité, en fait.
Ok.
Sachant que je ne saurais pas si mon père l'apprenait ou ma mère. Qu'est-ce qui serait passé? Est-ce que bah, je me serais retrouvé à la rue? Quelles auraient été mes ressources pour pouvoir vivre pleinement mon identité, quoi?
Au moment où tu te rends compte que t'es homo et ça peut être compliqué, tout de suite, tu mets en place des systèmes pour te protéger, entre guillemets?
Oui, oui. Bah oui, après dans le jeu social, et puis ça d'une certaine manière bah, je l'ai eu depuis jeune, toujours à essayer de faire semblant pour donner bonne figure, donc en fait ça a toujours été bah, jouer un personnage en sortant de la maison, donc voilà.
Ok, donc tu faisais tout pour justement qu'on se pose pas de questions pour toi et pour passer un peu inaperçu.
Exactement.
Mais j'imagine avec un caractère comme le tien, ça a pas dû être facile.
Bah après j'ai beaucoup changé parce que c'est vrai que j'avais beaucoup la peur qui était pesante autour de moi dans tout ce que je faisais. J'avais toujours cette peur de si mes parents l'apprennent, quelles sont mes ressources, je suis sur une île, genre je peux pas m'échapper, enfin, the fuck, quoi. Ça m'a beaucoup changé dans mon enfance. Du coup, je suis passé du petit garçon joyeux, hyper curieux, à quelqu'un de très introverti, très complexé, très déprimé, ouais, bah, j'ai connu la dépression assez jeune, voilà, 9-10 ans, j'étais en dépression.
Et ça, tes parents s'en sont rendus compte, je savais
Alors, est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Ben, ils ont mis plus ça sur la faute, bah, c'est, ils rentrent dans l'adolescence, tous les adolescents sont comme ça. Donc, ils essaient pas forcément de voir le mal-être, et puis je leur donnais pas non plus les clés de voilà.
De ce qui allait pas et pourquoi ça allait pas.
Exactement.
Okay.
Puis je pense que c'était des choses qui étaient un peu dépassées parce qu'on est quand même, nous, une génération, je trouve, en termes généraux, je parle même pour les gens en hexagone, bah, les personnes nées dans les années 90, il y a eu un shift énorme entre la génération de nos parents et la nôtre où on est un peu entre ces deux époques. On a les mœurs, les normes, etc. d'avant. Et en même temps, on a aussi bah, ces nouveaux moyens de communication, ces nouveaux médias, etc., qui nous apportent une plus grande compréhension du monde, etc. Donc on est vraiment entre les deux mondes, quoi. Et je pense que d'une certaine manière, oui, moi c'était clairement les médias, Internet qui m'a sauvé, ou de me dire, bah, en fait, je suis pas seul, donc il faut que je m'accroche pour pouvoir avoir les moyens de partir et puis vivre librement... ma réalité, enfin qui je
oui,
suis.
Oui, ta vie. Et, qu'est-ce qui t'a sauvé parmi tout ça et qui t'a permis de te sentir représenté, de dire oh, je suis pas tout seul.
Bah quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup de comment on appelle ça, beaucoup de shonen ai là, des boys love. Du coup, les mangas d'histoire d'amour entre garçons.
Okay.
Du coup, j'étais là en mode genre, ah bah, ça c'est cool, c'est possible, je me reconnais, ça me fait quelque chose. Donc, bah, j'étais aussi plongé beaucoup là-dedans, beaucoup dans les fanfictions. En termes de séries, à force de faire des recherches, voilà, tu tapes le mot-clé gay, voilà, juste gay, Karine Le Marchand. Tu vas sur les méandres d'Internet, tu te perds, et puis bah, je me suis retrouvé à trouver des séries comme Noah's Ark. Qu'est-ce que j'ai regardé Queer as Folk aussi, ouais. À l'époque. Bah, les forums de discussion et puis aussi beaucoup de profils de personnes que je pouvais voir sur Skyrock, MySpace, etc. Principalement des personnes aux États-Unis qui avaient une identité visuelle hyper forte dans ce qu'ils représentaient. Et ça m'a toujours attrayé. Du coup, bah, je me suis fait vite un compte pour suivre ces personnes queer et unapologetic.
Alors, comment on pourrait expliquer MySpace à ceux qui n'ont pas connu MySpace?
Comment parce ça, que t'as pas connu MySpace?
Moi, j'ai connu MySpace. Mais MySpace, c'était une sorte de réseau social basé sur la musique, à l'origine un
à
peu.
L'origine, ouais.
C'était quand même très, très musique avec des profils. On pouvait mettre un peu nos playlists, les musiques qu'on aimait bien, etc. Mm-hmm. On se créait un profil et c'était très, très arty. Très très vers l'art, vers la photo, voilà, oui, les groupes et les artistes avaient tous un MySpace. C'était vraiment l'endroit où il fallait.
Oui, c'est ça. Tu avais aussi cette possibilité, une des rares possibilités, de pouvoir mettre ton propre contenu photo aussi. C'était pour ça que ça a beaucoup marché, parce que je pense que sur les forums, etc., à l'époque, il n'y avait que du texte. Donc, de pouvoir ajouter des photos, de pouvoir aussi alimenter, personnaliser un peu ton interface pour, à ta façon, ça a dû révolutionner un peu tout ça. Et puis, bon, je pense que c'est clairement l'ancêtre du réseau social, hein, MySpace. Et tu me disais, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne connaissent pas MySpace ? Ouais, moi, c'est « Comment ça, tu ne connais pas MySpace ?»
Ouais.
Mais MySpace, c'est un peu, par exemple, c'est là où Jeffree Star a percé, en fait. Il a commencé à percer, par exemple. Là où j'ai commencé aussi à voir toutes les personnalités extravagantes, exubérantes. Notamment, moi, j'étais beaucoup adolescent dans cette période de sin queen, sin queer, emo, tout ça.
T'avais une belle mèche.
J'avais une mèche belle. Alors, en termes de santé de mèche, je sais pas, vu toutes les conneries que je lui ai fait subir, mais oui.
Ah, la mèche emo, c'est une mèche qui a vécu normalement.
Ouais. Elle a vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la mèche, hein, putain. Et lycée, alors lycée, j'ai fait le lissage japonais, j'ai fait le lissage brésilien, j'ai fait toutes les cochonneries possibles. Ouais, c'était un peu violent aussi de me faire passer par tout ça pour me sentir valide dans mon identité, parce que elle était représentée que par des personnes caucasiennes, quoi. Mais c'était mon moyen, pour moi, mon seul moyen d'émancipation et de montrer ce que j'aimais, quoi.
Ça a dû faire du bien de justement trouver un peu des personnes qui te ressemblaient. Et qui t'ont donné une sorte de modèle de validation aussi de tenue, d'esthétique, de ah c'est possible, des gens le font, moi aussi pourquoi pas je pourrais le faire. Mais du coup MySpace, t'étais ami avec Tom.
Mais tout le monde est ami avec Tom, c'est ça la particularité de MySpace, c'est que tu commences toujours avec un ami, tu vois, tu n'étais pas seul dans ce cheminement.
Mais c'est vrai que si on réfléchit bien, Tom, c'était en gros, à partir du moment où on se créait un MySpace, on recevait un message de Tom. Ah, it's Tom. Il avait une photo horrible avec un t-shirt blanc, tapé Tom, deux, quarts, MySpace, ouais, deux, trois quarts et tout. Genre un peu, il se retourne pour nous regarder, genre, hey, salut. Pour ceux qui ne connaissent pas MySpace, qui ne connaissent pas Tom, tapez MySpace, Tom. Voilà, vous verrez cette personne en t-shirt blanc qui se retourne pour dire bonjour. Mais c'est vrai que ça n'existe sur aucun réseau social maintenant, ce premier message et ce premier ami de t'es pas tout seul.
C'est ça.
Et je trouve que ça
c'est dommage,
assez...
ouais.
En réfléchissant bien maintenant, c'est assez typique du monde dans lequel on vit, tu vois, et où tu commences un peu à zéro, alors qu'en fait, tu commencerais à un.
Déjà, tout de suite, ça serait plus facile.
Exactement. Ouais. Est-ce que petit, donc en grandissant, mais en gros, t'avais quoi comme première image de drague culturelle
Je pense un peu comme toutes celles qu'on peut avoir d'enfants dans les années 90, tout ce qui est La Cage aux Folles, Priscilla Folle du Désert, etc. Tu Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Newmar, donc, qui en français c'est Extravagance.
Samantha Oops aussi.
Oui, c'est vrai, Samantha Oops, ce que je te disais. Samantha Oops, du drag all the way, hein, c'est clair, Elise Moon et.
Et Funk du Buzz.
Ouais. Voilà, c'est les premières images du drag. Des gens qui n'ont pas peur du ridicule et qui se mettent en scène, j'adore. Quelle que soit la forme d'art, moi, ça me plaît. J'adorais regarder ça, mais je me projetais pas forcément dans... Voilà, tout simplement.
Jeanne, ça a été quoi ta plus grande frustration ?
Oh là là, je pense que j'étais frustré sur plein de niveaux en étant jeune. De pas avoir un espace pour partager qui j'étais. Parce que, comme je te disais, j'étais assez seul tout le long de ma scolarité jusqu'au collège. Mais arrivé en troisième, du coup, j'ai dû changer de collège parce que c'était plus possible. Et je suis parti en ville, du coup. Et c'est vraiment là où j'ai commencé un peu à trouver un peu des personnes qui me ressemblaient un peu plus, qui étaient aussi en décalage avec... ce qu'on attend d'une personne créole, en fait. Et donc, en fait, on s'est tous retrouvés à faire un espèce de melting pot de hippie, de gothique, d'émo, de tectonique. Enfin, c'était... Tous les reclus de la société se retrouvaient ensemble, en fait.
C'était la Fontaine des Innocents à Châtelet.
Exactement, on avait la Fontaine des Innocents, mais nous, du coup, c'était le Front de Mer de Saint-Pierre. Ah, le Front de Mer de Saint-Pierre, que de souvenirs.
Ce qui est marrant, c'est que tout le monde a eu ça, en fait. Tout le monde a eu, en fait, cet endroit, peu importe la ville, l'endroit où il a grandi, ces endroits où tout le monde se réunit un peu. Venez comme vous êtes, mais pas trop normal non plus.
Ouais, pas la normalité, ça nous fait chier.
très melting pot, comme tu
disais. Ah oui, oui, oui.
C'est vraiment, c'est pas juste un seul type de personne qui suit un courant, c'était plein de courants ensemble.
Exactement.
Et c'est vrai que la technonique, j'ai envie de dire, elle fait du bien et du mal. Keep it together, gotta keep this thing.
Mais ouais, voilà, après moi, tout ce qui disait, voilà, différence et tout, forcément, bah, ça attisait ma curiosité. Donc j'allais forcément vers ces personnes-là pour en apprendre plus sur elles. Et puis, d'une certaine manière, à La Réunion, on a été aussi élevés un peu à appréhender l'autre d'une façon respectueuse. Et aussi, on sait qu'on peut toujours recevoir de l'autre quelque chose qu'on ne sait pas. Donc il y a cette dimension aussi de respect par rapport à l'autre, même s'il n'est pas comme nous, que ce soit par rapport à sa religion, que ce soit par rapport à sa couleur de peau, ses origines, etc.
En grandissant, tu te disais, il faut que je quitte La Réunion.
Ouais, depuis que j'étais tout petit, je pense que j'ai toujours voulu me dire, il faut que je parte. Mes seules options étaient de faire semblant d'être l'enfant modèle qui va aller faire ses études pour potentiellement peut-être un jour revenir sur l'île, quoi.
Donc peu importe quoi, peu importe quelle étude, peu importe quelle destination.
Rien, tu as ton bac, tu te casses, ouais. C'est tout. Ouais, c'était ça le but. Mes objectifs de base, c'était vraiment partir en Angleterre, mais financièrement, c'était pas possible. Donc, en plus, vu que j'étais le premier enfant à partir du côté de la famille de ma mère, de partir de La Réunion, pour faire des études, ça a été tout un cinéma. Donc, je me suis dit, bon, Paris, c'est très bien aussi.
Et quand tu quittes La Réunion, que tu arrives à Paris, qu'est-ce qui change ?
Déjà, j'arrive à Paris, je me dis c'est bon, j'ai atteint mon objectif, j'ai survécu, c'était pas sans problème. Par rapport à toutes les expériences que j'ai pu avoir, hyper négatives, la dépression, etc., j'ai eu beaucoup de problèmes de santé liés à la dépression aussi. Donc c'était pas facile de naviguer tout ça, parce que plus j'avançais dans la vie, plus c'était difficile pour moi de faire semblant pour atteindre cet objectif-là. Mais on y est arrivé au final. Comme toute personne, je pense déjà, t'es content, t'es plus chez tes parents, etc. Donc c'est cool. Un peu de peur aussi, parce que première fois où c'est l'indépendance, là tu sors d'un endroit où t'étais dans un village et tu te retrouves dans la capitale, tout seul. Et tout seul, plus ou moins, non, parce que j'avais aussi beaucoup d'amis qui eux aussi, sont partis pour les études. Et je suis venu aussi à Paris avec Raya Martini, que j'ai connue au collège. On était dans le même collège. Et on est arrivé à peu près en même temps sur Paris. Et c'est vrai que c'est un peu grâce à elle que je me suis inséré dans le milieu queer. Où j'ai eu une insertion très très facile. Je me suis jamais trop senti seul en arrivant à Paris. Et ça, je pense que c'est une chance. Et quand j'ai commencé à sortir en soirée, etc., ça a été un peu une révélation pour moi, parce que d'une certaine manière, je me suis dit tout ce que j'ai imaginé, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc ça m'a beaucoup rassuré dans mes choix, dans le fait de partir, dans le fait de m'émanciper et de prendre cette liberté, quoi.
Donc t'as pu te révéler, t'ouvrir et même te découvrir un peu sans contrainte parentale, culturelle, d'un coup pouvoir être vraiment droit. Mais tu sais quoi, petit teasing, on y revient tout de suite après, parce que là il est l'heure de prendre le pouls de Mia. Mia, comment elle va? Mia, est-ce qu'elle va bien? Mia, est-ce qu'elle a des questions? Ça, c'est sûr que oui. Bonjour, Mia.
Bonjour, je m'appelle Mia. J'ai 4 ans et demi. Et maintenant, je suis une moyenne grande et tout se passe bien.
Mia, tu sais que moi, j'ai toujours besoin de toi pour poser des questions auxquelles j'aurais pas pensé sans toi. Déjà, quelle est ta première question?
C'est quoi le drag?
Alors, Mia, le drag, c'est beaucoup de choses et peu de choses à la fois. Le drag, c'est, pour moi, je pense que la définition, elle diverge selon les personnes. Pour moi, le drag, c'est incarner un personnage. Donc, par exemple, moi, j'incarne Shaitan, c'est mon personnage, c'est ma création. Et à certains moments, des fois, ça peut être le soir pour aller en soirée faire des performances ou dans des événements spécifiques. je vais me mettre dans la peau d'un personnage et je vais jouer ce personnage, je vais le faire vivre. Ça peut être aussi, par exemple, ma mère, pour lui faire comprendre que c'était le drag, elle fait du théâtre. Et un jour, elle ne comprenait pas du coup pourquoi je m'habillais en fille, etc. Elle me posait ces questions, est-ce que tu veux devenir une fille, etc. Je lui disais que non, c'est un personnage, c'est du jeu. Et ma mère, elle fait du théâtre aussi. Et un jour, elle a fait le rôle d'un vieux monsieur. Et du coup, je lui dis, regarde, maman, toi aussi, tu fais du drag. Tu t'es mis dans le rôle d'un vieux monsieur, donc c'est pas la personne que tu es tous les jours, c'est un personnage.
Et elle a compris.
Et elle a compris comme ça.
Donc, Mia, le drag, c'est pour Chetan, c'est une création artistique, un personnage qu'on vient jouer et performer pour raconter,
c'est ça.
Pour raconter des histoires. Une nouvelle question de Mia.
Pourquoi tu as l'air méchante ?
Pourquoi j'ai l'air méchante ? Parce que je suis pas gentille.
Parce que c'est vrai que Chetan, quand on regarde un peu les photos sur Instagram, etc., elle a l'air un peu vilaine.
Ah j'espère.
Ah, c'est le but.
C'est le but, oui.
Tu vois, Mia, très bonne question.
Tu vois, Mia, des fois, il y a des gens, ils aiment bien les princesses, ils aiment bien quand c'est tout sourire, etc. Moi, je préfère les méchantes, par exemple, dans les films et tout, je préfère les méchantes. Dans les jeux vidéo, je préférais toujours les méchantes parce que je trouvais que c'était les plus mieux habillées, les plus apprêtées, et puis qu'elles avaient aussi cette force, etc. Et puis, c'est vrai que, généralement, les méchants, si on les prend... si on prend le problème un peu plus loin, généralement, ils ont toujours un but et ils sont toujours mal compris dans la société. Donc je pense que c'est d'une certaine manière pour ça que je me suis un peu vu comme un méchant, parce que j'ai ma vision, j'ai mes objectifs qui les autres ne comprennent pas en fait et rejettent ça. Donc au lieu d'essayer de faire comme les autres et d'être malheureux, j'ai décidé d'être moi-même.
Très bien. Donc, c'est pour ça que Chetan a l'air méchante. Une nouvelle question, Mia.
Pourquoi tu t'appelles Chetan ?
Alors, je m'appelle Chetan parce que quand j'étais petit, je faisais des bêtises, comme tous les enfants. Et du coup, mon père, pour me reprendre un petit peu, c'était un petit peu la petite blague, quoi. Genre, t'es un Chetan, quoi. Genre, t'es un diable.
C'était ton surnom de petit, quoi ?
C'était surtout le surnom quand je faisais des conneries, quoi.
Okay.
Donc, bonjour papa, c'est grâce à toi que je m'appelle Chetan maintenant. Voilà.
Mais alors, c'est pas que Chetan, parce qu'il y a Chetan et il y a...
Shenara Tanjabi.
Pourquoi ?
Alors, parce que du coup, de base, vraiment, l'objectif, c'était de naviguer en tant que Chetan. Et à côté... C'est vrai que du coup, d'être dans l'Hexagone, les gens associent forcément donc Chetan arabe au Maghreb ou aux pays arabes. C'est pas mes origines et j'avais aussi envie de mettre en avant le fait que l'islam, c'est un peu la religion, une des religions les plus étendues dans le monde. Et donc voilà, moi en tant que créole et indien, j'avais envie d'inventer, d'avoir des sonorités indiennes. Donc Shenara Tanjabi, c'est un nom inventé avec des sonorités indiennes. Pour un peu le foutre dans la gueule des gens en mode genre je m'appelle Shenara Tanjabi, mais tu peux m'appeler Chetan. Enfin, si les gens ont la curiosité, la discussion peut s'ouvrir et là je peux leur parler un peu de qui je suis.
Mia, une nouvelle question.
C'est quoi ton métier ?
Alors, Mia, depuis un an et demi, je vis exclusivement du drag et de faire des perruques. Donc, je suis perruquier, ça veut dire que ce que tu vois sur ce que je porte. Avec mon personnage, etc., c'est moi qui l'ai fait. Et je me suis mis aussi à le faire pour d'autres personnes qui n'arrivent pas forcément à le faire. Donc, elles font appel à mes services pour leur créer la coiffure de leurs rêves. Moi, j'aime faire les trucs hyper camp, hyper explosés, beaucoup de volume. Je préfère faire des choses qui sortent de l'ordinaire plutôt que de se baser sur des proportions qu'on verrait dans la vie de tous les jours, quoi.
Mia, elle adore les perruques. Donc, Mia, tu pourras passer une commande auprès de Chetan si tu as envie d'avoir une belle perruque pour être une belle princesse, ou une princesse gentille, ou une princesse méchante.
Ah, moi, je fais les deux. Après, je m'adapte en fonction. Deux.
Il est versatile de la perruque. Eh bien, merci beaucoup, Mia. À très bientôt.
Bisous, Mia.
Gros bisous.
Gros bisous. Merci, Mia, et merci à ses parents, Alice et Gilles, d'avoir permis à Mia de se poser toutes ces questions. Ça va, ça t'a plu ?
Super.
C'est pertinent, hein ?
N'est-ce pas ?
Ah, ouais. Donc, avant les questions de Mia, tu nous racontais ton arrivée à Paris et à quel point ça t'avait fait du bien aussi pour t'exprimer en tant que toi-même, et sans contrainte, sans barrière. Quand et comment est-ce que le drag rentre dans ta vie parisienne ?
Donc bah, c'est vraiment en arrivant sur Paris où je commençais à aller en soirée. Au fur et à mesure, je commençais à me faire des petits looks et tout pour aller aux soirées, notamment bah, les trous aux biches, les flashs cocottes, etc. Et bah, l'idée germait aussi de plus en plus. Mais bon, avec un salaire d'étudiant, c'était un peu compliqué. Donc en fait, c'était bah, au fur et à mesure, bah, soit je prends des vieux trucs de maquillage quand j'avais des potes qui passaient en mode genre « Ah bah tu m'as dit que tu voulais faire ça, bah tiens, j'ai ça et tout, prends ça, récupérer, commence à récupérer les trucs, etc. » Et bah, c'est vraiment en 2013, un an et demi après que je suis arrivé à Paris, où bah, une amie m'a mis en drague pour la première fois.
Et c'était voilà. Comment ?
Et c'était comment ? Bah, c'était pas mal du tout. Franchement, non, c'était cool. Les sourcils étaient un peu trop hauts pour de là où ils devaient être, mais l'expérience était super plaisante et tout. Bah, du coup, c'était un... elle m'a maquillé et en fait, bah, j'attendais qu'elle finisse de maquiller avant de voir le résultat final. Et du coup, je vais dans le miroir et là, bah, du coup, genre grosse montée d'émotions qui monte et tout. Enfin, tu vois quelqu'un qui n'est pas toi en face. T'essaies dans ton esprit de te dire, je vais bouger la main. Et en fait, tu vois quelqu'un qui n'est pas toi qui bouge la main. Donc, expérience extrêmement bizarre. Je pense que ça fait ça un peu à tout le monde. Waouh, genre, tu as l'impression de sortir de ton corps et de voir quelqu'un, enfin, de contrôler quelqu'un d'autre. Donc là, tu commences à comprendre qu'il y a une autre dimension que juste le déguisement, où là, vraiment, ben, je pense que c'est de là aussi où on tire le pouvoir quand on est en drague, et la confiance, l'énergie, etc. C'est ben, vraiment de se dire, ben, là, je sors de moi et je peux tout faire, quoi.
T'as pleuré ?
J'ai pleuré, oui. Alors, intérieurement, bon, je vais pas ruiner le maquillage.
Bah non, ce serait quand même dommage.
On va pas ruiner le maquillage, quand même.
Un peu de respect.
Du coup, on était là... aspire. Mais ouais, ah oui, montée d'émotions de ouf et tout. C'était un des rares moments où je me suis dit, enfin c'était une évidence en mode genre bah c'est ça que tu vas faire en fait.
Et c'est ça qui manquait à ta vie.
C'est ça qui manquait à ma vie dans le sens où j'étais assez curieux, je faisais beaucoup de choses, mais c'était là où je me disais ben en fait c'est un instrument que je vais pouvoir utiliser pour exprimer beaucoup de choses et beaucoup de choses que j'aime et exprimer un peu mon histoire en fait. Donc c'est vraiment l'outil le plus complet que j'ai trouvé à ce jour pour m'exprimer.
En 2013, mm-hmm. C'était quoi la scène drag ?
Alors bah, la scène drag 2013, c'était beaucoup de jeunes comme moi qui essayaient de commencer à se lancer. Il y avait d'autres queens qui étaient aussi présentes, mais il n'y avait pas ce système de, comme on connaît actuellement, de performance en fait. C'était très rare de dire bah là tu vas à un drag show en fait. C'était plus tu vas à une soirée gay, queer et y a une drag qui danse à côté du DJ. Donc c'était la seule façon qu'on avait de voir en fait des drags en fait.
Du
c'était
go-go, ouais.
Du gogo, voilà, on danse à côté du DJ. Que ce système de performance, on le voyait beaucoup plus chez les transformistes par exemple. Où là bah tu vas voir un show de transformiste, tu vas voir c'est son show, etc. Donc c'était un peu à faire quoi, donc à créer.
Et donc 2014.
Oui.
Tu rencontres un banc de morue ? Comment
Alors non, 2004, c'était... Oui, 2014-2015, donc je commence à sortir un peu en soirée, je commence à rencontrer les dragues, la nouvelle génération de dragues qui émerge. Puis je me lie d'amitié avec une personne qui s'appelle Médusa, qui arrive fraîchement à Paris, voilà, 2014-2015. Et du coup, bah, là, tout de suite, on clique... on a les mêmes références, on a les mêmes goûts musicaux, on a les mêmes envies. Par le biais de Médusa, je rencontre aussi une drague qui s'appelle Baba. Et du coup, on a tout un peu ce même esthétique de femme sévère, inapprochable. Pour s'amuser, on va lancer un gang, quoi. Du coup, on est acariâtre, mauvaise, méchante. On est les morues, quoi. House of Morues, voilà, c'est né de ça. Et au fur et à mesure, un peu bah, du temps qui passait, des années, j'avais aussi des amis dans mon cercle que j'ai connus des soirées d'avant, des flash cocottes, etc. Donc notamment une drague qui s'appelle Pariser, avec Malibu. On a eu aussi Philippe, The Miss Drinks.
Et en gros, cette house, elle vous servait un peu à quoi, à toutes ?
Alors déjà, de base, en fait, on a vraiment fait cette house-là pour s'amuser. On va faire la fête, on va essayer de passer des bonnes soirées, vraiment d'être hyper imposante pour avoir des verres gratuits. Voilà, le but, c'était on s'amuse, il n'y avait rien de professionnel. Au fur et à mesure, on voyait que l'intérêt pour nous était grandissant. Donc on s'était dit, pourquoi pas essayer de... Bah, de travailler un peu ça, de proposer voilà, des choses en groupe. Surtout qu'en termes visuels, on pouvait tout de suite se dire, tu vas dans une soirée, tu vois une nana, tu te dis, elle, c'est une morue, forcément, visuellement.
Ça criait la morue.
Ouais, voilà, vraiment. Ça puait la morue, quoi.
Ce gang de morue.
Littéralement.
Ce gang de morue, il était vu comment dans Paris, par la scène drag?
Bah, c'était assez mitigé, hein, parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous adoraient, qui appréciaient ce qu'on faisait. Et il y avait aussi beaucoup de gens qui n'étaient pas très réceptifs à ce qu'on faisait. Je pense qu'ils ne comprenaient pas aussi forcément l'humour noir ou le second degré derrière le fait que bah, on se mettait en scène en étant des femmes hyper désagréables.
Oui, c'était votre personnage.
C'est ça, parce que je me retrouvais beaucoup de fois à ce que des gens me disent « mais en fait, t'es gentil ».
Est-ce que les morues ont été une inspiration pour d'autres générations de drague?
Bah, je me retrouve à voir des dragues qui, dans mes messages, ou qui ont pu par les messages, ou même quand je les ai rencontrées, me dire bah, « vous avez été une inspiration énorme pour moi et tout, de voir le drag que vous faites, en fait, ça m'a donné envie de faire un drag similaire, de faire un drag qui casse un peu les codes. »
Et entre inspiration et vol, est-ce que c'est différent?
Ah oui, non, totalement. On s'est retrouvés beaucoup de fois à nous faire voler bah, nos visages, nos looks, etc. Donc ça, c'était une période qui était assez pénible pour nous, parce que bah, d'une certaine manière, bah, on se sentait un peu aliénés par tout ça. On n'était pas prête à se faire voler notre travail. Si quelqu'un nous dit, bah, genre, je me suis inspiré de votre maquillage parce que bah, genre, j'adore ce que vous faites, etc. Tu vois, genre, pas de problème et tout, tu vois, genre, on apprécie. Mais juste de voir le truc en mode, genre, alors toi, tu t'es fait un peu cet œil comme, là, comme ça, ces petits sourcils comme ceci et tout, et tu transpires, t'as la goutte au front quand on est devant toi en mode, genre, salut, ça va. Là, tu vois, il y a.
On te voit.
On te voit, on t'a vu, tu sais qu'on t'a vu. Mais va pas t'approprier un travail en fait que tu n'as pas fait, parce que c'est beaucoup de temps passé à créer ce personnage, c'est beaucoup de technique, beaucoup de travail, beaucoup de ratés, beaucoup de enfin c'est un processus créatif quoi. Et je donne souvent l'exemple, bah, par exemple, genre tu vas faire une toile et tout, et puis tu la retrouves le lendemain, bah quelqu'un a fait la copie conforme et puis l'a présentée à des gens, à un certain public, en s'appropriant ce travail. Bah, ça s'appelle du vol, tout simplement. Pourquoi ça serait différent avec du drag? Je ne vois pas pourquoi.
D'ailleurs, elle ressemble à quoi, Chetan?
Bah, Chetan, ce qu'elle aime beaucoup, en fait, c'est ne pas ressembler à ce qu'elle était la fois d'avant. Pour moi, mon drag, ce n'est pas un être humain. C'est un djinn, donc un génie. Les génies, pour faire la distinction entre les humains, dans la littérature arabe, on dit que ce sont des êtres qui ont été créés par le feu. Et les humains ont été créés par la Terre. Les djinns ont la possibilité, en fait, de transformer leur apparence. Donc, Chetan, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est sur Terre pour naviguer socialement avec les êtres humains. Et ça me permet aussi bah, de ne pas m'ennuyer et puis de mettre mes inspirations qui sont vastes et diverses, quoi. Je suis assez inspiré par le monde de la mode, mais en même temps, bah, je suis très inspiré par tout ce qui est cosplay, jeux vidéo, etc. Donc, et puis, bah, voilà, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Donc, alors, reconnaître physiquement Chetan, bon, bah...
Elle est méchante.
Elle est méchante et elle est grande. Et elle a des gros cheveux. Ouais, j'aime beaucoup.
Grande, méchante, des gros cheveux.
C'est ça.
Tes parents, ils savent que tu fais du drag?
Alors, mes parents... Donc, bah, ma mère, je lui ai dit déjà que j'étais homosexuel assez tard, parce qu'en fait, j'avais pas envie qu'elle le dise à mon père. Puis un jour, bah, on avait une discussion comme ça, elle était venue en vacances pour me voir. Et elle me demande, bah, t'as une copine? Du coup, je lui dis non. Et là, elle me dit pour la première fois en rigolant, t'as un copain? Et là, je lui dis oui. Elle me fait, ah d'accord, voilà. J'ai pas voulu rendre ça solennel pour vraiment lui mettre dans la gueule en mode genre, non mais c'est normal en fait, tu vois, c'est pas quelque chose où je suis obligé de m'exprimer dessus, je suis obligé de voilà, si t'es pas confortable avec ça, en fait, genre non, je l'ai introduit de la façon la plus normale, comme si je rencontrais un étranger, hein, voilà. Pour mon père, c'était en 2016 qu'il l'a appris, et bah, du coup, en fait, j'avais fait une interview sur le Média Fresh pour parler du drag, pour parler un peu de moi. Suite à ça, en fait, j'ai eu beaucoup de soutien aussi bah, de la part de la communauté LGBT à La Réunion, beaucoup de jeunes qui m'ont envoyé des messages. Mais à côté de ça, il y a eu aussi un événement bah, qui a un peu mis le feu aux poudres. Donc je me suis fait outer dans un journal local de Lille pour atteindre mon père, mesquin.
Ah, il y a eu un but de te nuire ou de nuire à ton père,
voilà,
en publiant ça,
en mode genre, regardez ce que cette chose fait le soir à se travestir.
Mais non.
Donc sans mon accord, sans utiliser mes propos, sans utiliser les propos de l'interview.
Ah, donc c'était même pas genre de la citation ou une fierté de machin, c'était on reprend juste des éléments pour nuire.
Oui, j'appelais pas ça du journalisme, j'appelle juste ça de la connerie, quoi. Et du coup, j'ai un appel de ma mère qui me dit « Bon, là, il va falloir que tu aies une discussion avec ton père qui n'a pas eu lieu au final. Je pense qu'il y a un moment, il a accepté ça et puis j'ai arrêté de le cacher, quoi. Donc par exemple, quand je le vois, genre, on parle de... je lui parle de mon atelier, de l'entreprise, etc. Des fois, il essaie quand même de me dire « Tu veux pas reprendre le commerce et tout ?» Là, je lui dis « Là... » En soi, c'est pas mon but professionnel, tu vois. Genre, merci de me donner cette possibilité.
Aujourd'hui, t'entretiens quel rapport avec la Réunion ?
De base, je me suis... Quand j'étais plus petit, effectivement, forcément, tout ce à quoi j'aspirais, toutes mes références, c'était hyper européanisé, caucasien, etc. Donc, j'avais aussi un peu ce rejet de ma propre culture, de ma propre identité. Nous, jeune génération de Réunionnais, on l'a un peu tout subi. Notamment dans les structures comme l'école, où on nous apprend très vite où on nous dit souvent il faut que tu partes pour être quelqu'un ou pour faire quelque chose de ta vie. Si tu restes, tu vas être un raté, quoi.
Tu veux dire, c'est par rapport à l'assimilation, à la culture de l'Hexagone.
C'est ça. Vraiment, si tu parles pas correctement français, tu n'arriveras à rien dans ta vie. Si tu ne t'intègres pas, si tu ne pars pas pour faire des études, tu n'arriveras à rien. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment dans la limite, dans la mission de l'éducation nationale, de pousser la jeunesse, de pousser les cerveaux à fuir la Réunion, en fait. En histoire, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend l'histoire de la France, on n'apprend pas forcément notre histoire. On a 4 heures dans toute notre scolarité dédiée à l'histoire de la Réunion, qui se base sur l'esclavage et sur comment les Blancs sont venus pour donner la liberté aux esclaves. Enfin, c'est vraiment un programme qui est complètement aliénant, complètement... Enfin, voilà. Et du coup, si on n'a pas cette proximité, cette transmission de la famille, de notre histoire, de notre identité, on ne l'a pas, tu vois. Et puis... Moi, c'est pas quelque chose que j'ai forcément cherché, en fait, au sein de ma famille, parce que ce que je voulais, c'était partir, m'émanciper et vraiment ne plus entendre parler de ça. Donc, j'ai pas cherché à savoir mon histoire.
D'une certaine manière, t'as eu l'impression d'être endoctriné, entre guillemets, à penser d'une certaine manière et à mettre la Réunion en dessous de l'Hexagone.
Ah ouais, totalement. Franchement, je me foutrais des baffes, en fait, à me revoir, à repenser à des choses en mode genre, de toute façon, c'est pas la Réunion qui va me rendre heureux, c'est pas la Réunion qui va m'apprendre qui je suis, qui va me montrer réellement qui je suis, alors qu'en final, si, c'est ancré en moi, c'est qui je suis et c'est qui je serai, et puis c'est comme ça. Et si on n'a pas la parole des anciens qui transmet ça, on va tout perdre, en fait. Et c'est ce qui est petit peu en train de se passer, on est en train d'assister à l'effacement de notre culture, de notre langue, donc c'est hyper triste, quoi.
Comment tu te réappropries, et depuis quand est-ce que tu te réappropries tes origines, ton île
Du coup, comme je te disais, au fur et à mesure, je faisais un peu plus de recherches, comprendre un peu plus l'histoire, essayer d'aller en dehors des sentiers battus. Donc il y avait un petit peu cette prise de conscience qui commence à monter en même temps que d'apprendre à faire du drag, etc. Voilà, c'était un peu similaire. Et c'est vrai que quand il y a eu tous les événements avec Black Lives Matter, etc., là, il y a eu beaucoup plus de documentation qui sont remontées. Et aussi tout ce qui était histoire coloniale. Donc ça m'a permis d'approfondir un petit peu tout ça et puis de me rendre compte qu'en fait... c'était une grosse mascarade, quoi, tout simplement. Pendant le Covid aussi, du coup, le premier confinement, donc je l'ai passé ici. C'était la première fois où je m'étais dit que j'avais cette envie irrépressible de rentrer. Sur mes 10 ans, je suis rentré quelques fois, mais quand je rentrais, c'était un peu fatigant. Je rentrais, je devais voir ma famille, mais je n'étais pas forcément heureux. J'avais hâte de rentrer en Hexagone. Pendant la période du Covid et tout, j'étais là, j'ai une envie de rentrer à La Réunion, de manger, de boire, de respirer, voilà, de m'abreuver de mon île, quoi. Que suite au confinement, au premier confinement, ben, j'ai perdu mon emploi, licenciement technique. Je me suis séparé de mon ex-copain. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie assez négatives, etc. J'ai besoin de faire le point, voir qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, etc. Donc, je vais rentrer voir maman. Et je suis rentré. Ça m'a beaucoup aidé à prendre le temps, voilà, de me dire, bah, je vais faire des choses que je ne me laissais pas l'opportunité de faire. Par exemple, aller marcher dans la forêt, me perdre dans la forêt, aller à la plage, rester, écouter les sons, sentir les odeurs, me réimprégner de qui je suis, qui j'étais, etc. Parce que vraiment, bon, après tout ce qui s'était passé, je suis arrivé, j'étais un cadavre, quoi. J'étais blême, enfin, j'étais blanc, en mode genre, on dirait que j'avais eu un mort, quoi. Et je me suis soigné en prenant connaissance de qui j'étais. Donc après, je suis rentré, mais je suis reparti en fin d'année même. Et là, j'ai rencontré mon copain actuel. Donc, ça m'a fait rester un an sur place. Voilà, quoi.
Et quand t'es là-bas, comme tu es en réappropriation, entre guillemets, de ton île, de ta culture... Qu'est-ce qui a changé là-bas ?
Il faut savoir que moi, quand je suis parti, c'était hyper, hyper compliqué d'être homosexuel. Juste le poids de la famille à La Réunion, c'est quelque chose qui est hyper pesant. Et puis, comme je te dis, c'est une île, tout le monde se connaît. Donc forcément, un tel, je l'ai vu tenir la main, embrasser quelqu'un dans la rue et tout, ça va très vite. Donc je pense que c'est une peur qui est relativement présente. L'homosexualité à La Réunion, en fait, elle se vivait malheureusement que de façon purement sexualité. Et sexualité, donc on consomme la sexualité comme on peut la voir dans les médias, en mode toujours caché. On est homosexuel, on va rencontrer un autre homosexuel uniquement pour consommer la chair. Moi, c'est pour ça que je me suis pas reconnu dans ce schéma de rencontre et tout, et c'est pour ça que j'avais envie de partir, parce que je me voyais pas me dire je vais aller dans la forêt pour aller rencontrer forcément le prince charmant au détour d'un arbre, quoi, tu vois, genre non, ça passe pas, c'est comme ça. Et du coup, en revenant à La Réunion, j'ai fait la rencontre d'une artiste queer qui s'appelle Brandon Jarkara, et Yael lançait son projet artistique qui s'appelle Requeer, qui elle a transformé en association pour la lutte des droits LGBT et de tout ce qui est élément de décolonisation. Donc je me suis engagé associativement avec cette personne pour faire des activités, pour faire des ateliers. On a pu faire un drag show. C'est vrai qu'après, ça a mené des pistes de réflexion à pourquoi pas lancer une marche des visibilités. Et c'était en 2021, si je dis pas de bêtises, où on a pu faire la première marche des visibilités, du coup, qui a été acceptée par la mairie, la région. Voilà, tout a été...
incroyable.
Voilà, du coup, c'était grand événement et tout. Malheureusement, j'ai pas pu le faire en drague, mais c'était un beau moment à vivre, quoi. Où je me
ça
suis
lui a
dit
une fierté énorme.
Ah non, mais clairement, moi, j'étais aux anges, j'étais là, genre, surtout de voir, genre, en 10 ans, comment ça a changé, comment les mentalités, elles ont changé, de voir aussi, par exemple, la petite Tati, là, qui était là en mode, genre, vous avez raison, et tout, allez-y défiler, et tout, de toute façon, les gens, s'ils sont pas contents, on s'en fout, etc. Vraiment de voir, genre, un shift dans les mentalités et tout, c'était fantastique. Là, ils en sont à la 3e, cette année, j'ai pu y aller aussi. Et il y a eu plein d'activités et tout à côté, des diffusions de documentaires, de films, etc. pour donner la possibilité un peu aux gens de se renseigner sur la culture queer, etc., sur les identités. Ça, c'est formidable.
Bravo.
Merci.
Ça doit faire quelque chose quand même.
Oui, ouais, c'est une grande fierté, hein, franchement. C'est surtout de voir quand tu pars d'ici où tu te dis il n'y a rien à faire, enfin... C'est impossible, tu vois, tu reviens 10 ans après et tu te dis, on a réussi à le faire, quoi. Donc, ça donne encore plus l'envie.
Ça me fait penser aussi à ces initiatives de pride rural, de pride des campagnes, c'est-à-dire se...
Bien sûr.
Réapproprier ses origines, parce que... Et du coup, le montrer fièrement.
Ouais, ses origines sont là où on vit, les spécificités de là où on vit et tout.
En deux mots, la première fois que tu t'es mis en drague et que t'as été en drague à La Réunion, ça t'a fait quoi ?
Bah, j'ai eu chaud. C'était juste pour faire des photos de mon côté. Et, mais là où je m'en souviens vraiment, c'était en 2019-2020. C'était bah, vraiment où là, je me suis dit, je vais lancer un, bah, me lancer un projet perso où je vais faire de, voilà, faire de la photo et mettre le drag là où on ne l'attend pas. Donc, d'avoir fait du drag sur le piton de la fournaise, donc sur le volcan.
Incroyable.
Ouais, c'était très, très cool. J'ai eu mon petit moment, Priscilla la folle du désert et tout. J'ai fait des photos sur la plage. J'ai fait des photos sur, à côté d'un petit bar typique de La Réunion. J'ai fait des photos...
Okay.
Essayer de mettre en avant mes origines, voilà.
Tu les as exposées, ces photos-là ?
Non, alors, si, ça a été exposé dans le chef-lieu, parce qu'au final, il faut savoir que bah, depuis la première marche, en fait, on a tout un mois de visibilité et on a été très soutenus par certaines mairies de Lille. Donc, en fait, bah, je me suis retrouvé, par exemple, bah, placardé sur le devant d'une mairie.
Ouais, génial !
Voilà, mon portrait en grand, genre sur la mairie. Du coup, c'est assez kiffant. Et en repassant là, avant de partir, bah, il a toujours pas été tagué, donc j'en suis ravi. Je pense que les gens se prennent un peu moins la tête et tout, donc ça c'est cool de voir ça.
Eh ben, franchement, bravo, ben, bravo merci. Pour ce que t'as fait. Avant de nous quitter, est-ce que tu as, parce que c'est bientôt la fin de cette émission, est-ce que tu as des petites recommandations à nous faire, des choses auxquelles que tu auras envie de partager, peu importe le sujet de la recommandation, mais.
Alors, moi, je vous recommanderais de regarder un peu donc, la filmographie de John Waters et aussi la filmographie de Greg Araki. Peut-être qu'avec ça, vous arriverez un petit peu à cerner tout le bordel qui se passe dans mon cerveau. En termes de recommandations d'artistes, je peux vous recommander, bah, du coup, la House of Moru, Medusa, Baba, Philippe, le Philippe, The Miss Drinks, Paris Air, Malibu, Tristana... Yoshiwawa. Alors, dans les calculs, sont, je les mettrai dans les commentaires parce que les calculs sont pas bons. Parce que dans ma tête, je crois qu'on est 10 nanas plus 2 moins 1 plus 5. Enfin, voilà, ça va plus quoi.
Mais du coup, enfin, on refera le point et on trouvera tout ça sur le compte Instagram du podcast, mais aussi, et aussi sur les différentes plateformes de podcast. Toutes les morues seront notées.
Yes. Ensuite, The Jasper, artiste incroyable. Qui est un peu partout là en ce moment et tout. Franchement, je pense que c'est un peu dur de contourner Jasper qui est avec nous aussi à l'atelier.
Oui, parce que voilà, c'est vrai qu'on en a assez peu parlé, mais Chetan, t'es aussi perruquier, tu fais des perruques diverses et variées, t'as notamment fait des perruques pour le Fantasma Circus Erotica, donc t'as fait des perruques pour eux, t'as aussi fait des perruques pour des queens de Drag Race. Donc on peut voir tout ton travail et tout ce que tu fais sur tes réseaux et sur ton site aussi, c'est ça ?
C'est ça.
Ok, donc incroyable. Allez suivre. Vraiment, moi je suis au milieu des perruques, je regarde la couleur partout, il y a des... C'est magnifique.
Ouais, si tu regardes trop, elles vont t'attaquer, attention.
Ah ouais, ouais. Elles sont méchantes. Pas
commodes. Bah oui. Ah.
Je baisse les yeux. C'est la fin de cette émission.
Oh.
Mais ouais, est-ce que ça t'a plu ?
De ouf.
Est-ce que j'y recommande ?
Ah oui, totalement.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Shenara Tenjabi, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, bah, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast, suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc Shenara Tenjabi et aussi laquinterview.podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous, et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye bye!
Bye!
Salut!
I am the queen of drag!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.